D'accord, il y a un texte de partir de textes que vous citez, qui sont cités par David en particulier, qui est le passage de Saint-Exupéry dans la lettre à un otage. Tu te rappelles de ça? Voilà, vas-y. Est-ce que tu pourrais vous raconter comme ça, ou bien tu veux ton propre texte? Mais ça, c'est intéressant. Je trouve que cet extrait, cette métaphore de ce que peut être l'effet d'un sourire, la production d'un sourire, ou ce que peut être en situation où l'auteur lui-même est en danger de mort effective, de mort réelle, qu'est-ce que peut être à ce moment-là le moindre trait? On parlait d'être sur la petite différence, qu'est-ce qui fait que un petit trait peut modifier tout à fait l'attitude des exécuteurs autour. Tu peux raconter, on peut partir de cette histoire.
C'est l'émergence de le retour de l'humanité, le retour du visage d'ailleurs de manière très féminine, du coup, dans un contexte où la mort est en jeu, puisque à l'époque c'est la guerre d'Espagne, avec les Saint-Exupéry, je crois, qui est coincé dans une ville dont le nom m'échappe. Ça tape dans un... Je reprends mon texte. Donc je pense à un beau passage de Saint-Exupéry dans la lettre à un otage. L'écrivain effectue un reportage sur la guerre civile en Espagne. Un soir, où il s'est attardé dans un hangar, il assiste, caché, à un embarquement d'armes par les miliciens anarchistes. Surpris, il est capturé, sa vie en danger, car on le suspecte d'être un espion, et la justice de guerre est expéditive. Le temps passe, sans qu'il sache pourquoi les hommes attendent encore pour le tuer. Mais Saint-Exupéry se sent condamné. Alors je le cite, là. C'est alors qu'eut lieu le miracle. Oh, un miracle très discret. Je manquais de cigarettes. Comme l'un des geôliers fumait, je le priais d'un geste de m'en céder une et ébaucher un même sourire. L'homme s'étira d'abord, passa lentement la main sur son front, leva les yeux dans ma direction, non plus de ma cravate, mais de mon visage, et à ma grande stupéfaction, ébaucha lui aussi un sourire. Ce fut comme le lever du jour. Rien n'était changé, mais tout était changé. Rien encore n'avait été dit. Cependant, tout était résolu. Je posai la main en remerciement sur l'épaule du milicien quand il me tendit ma cigarette. Et comme cette glace, une fois rompue, les autres miliciens, eux aussi, redevenaient hommes. J'entrais dans leur sourire à tous, comme dans un pays neuf et libre. Et donc j'ajoute en commentaire, la parole est le premier instrument de restauration du lien, elle est une source de dissipation de la violence.
Je crois que ce moment limite, vous savez, c'est le moment limite où vous risquez tout, mort ou vif, à ce moment-là, et qui tient effectivement au réflexe que vous avez à avoir. Qu'est-ce que tu en penses dans l'après-coup?
Oui, il y a la question du visage, de l'humanité ordinaire, en quelque sorte. Saint-Exupéry se révèle comme un homme parmi les autres, et puis ce milicien anarchiste est réservé d'une certaine manière. On ne peut pas tuer pour avoir le désir de tuer un autre homme, il faut quand même avoir une haine. Là, c'est plus possible. Le sourire a désamorcer la haine, l'émergence du visage a désamorcé la haine. Il y a eu très peu de mots échangés. On est à mi-chemin entre la question du silence et de la parole, parce que qu'est-ce qui a rendu effectif la sauvegarde de Saint-Exupéry? C'est aussi bien le rapport de visage à visage, qui ne passait pas forcément par les mots, et puis le simple fait de demander une cigarette, ce qui n'est pas un sens bien grandiose. On n'est pas du tout dans l'argumentation auquel s'attache énormément Philippe. On est vraiment dans des choses d'une banalité absolument déconcertante. Et qui marche, le retour de l'humain, le retour du visage.
C'est-à-dire qu'il tient à quelque chose de l'ordre d'une demande. C'est-à-dire réintroduire une demande, est-ce que ça n'est pas ce moment où on refait circuler, au fond, quelque chose de la parole, alors qu'on est dans une situation, dans une pure situation. C'est-à-dire quelque chose de
bien, en fait.
Mais bien au sens où une sorte de moment de recirculation de la demande. On peut imaginer que, d'ailleurs, à ce moment-là, quand vous réintroduisez dans une demande, il peut arriver exactement le contraire. C'est-à-dire on aurait très bien pu lui tirer dessus à ce moment-là, parce que de relancer quelqu'un dans le terrain de la parole, alors qu'on est entièrement dans cette sorte de clivage, ça fera de... Mais cette idée, hein, de remettre quelque chose de l'ordre de l'identification, hein, de l'identification à l'autre, et de mettre en position, vous savez, quand on voit quelqu'un qui mendie, ça c'est une expérience quand même, c'est que c'est là où il y a quelque chose quand même d'humanisant, c'est que l'autre, ça nous laisse. C'est quelque chose de complètement effroyable, c'est-à-dire, ça provoque, c'est l'induction, et ça a à voir avec cette demande aussi agie par l'autre, c'est-à-dire, qu'est-ce que t'en penses?
J'ai du mal à rentrer. À partir de ma position, tu as fait appel à David et à moi pour ce livre, au nom du, je dirais, de notre présence dans une autre maison psychologique que la Charente, qui n'est pas coutumière dans cette édition, qui est celle de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, qui, comme vous le savez, prend les mêmes problèmes d'une autre façon. Alors, évidemment, tout l'intérêt de, à la fois de notre dialogue et de notre présence dans Arcane, c'est aussi de jeter un pont entre les maisons. Au risque que nous ne disions pas la même chose, au risque d'un désaccord sur un certain nombre de points. Alors, puisque tu nous as sollicité sur la question de la violence et que David a déjà répondu par l'intermédiaire de Saint-Exupéry, je dirais que, puisque la question de l'accession de l'enfant à la parole a été posée, il me semble que l'enfant accède à la parole, mais ce que veut dire parole dans ce cas-là, il accède à la culture. Il accède à la culture, et parole et culture, de ce point de vue-là, sont intimement liées. Et à quelle culture un enfant accède-t-il, et quelle place la culture à laquelle il accède laisse-t-elle à la question de la violence? Et moi, j'ai tendance à substituer de plus en plus, je fais référence aux travaux que nous avons en cours à la question des refusants, j'ai tendance à décaler la question de la violence qui me paraît, je le dis tout net, un concept à la fois intéressant, mais un petit peu piégeant et hypnotisant. Et il me semble que quand on réfléchit au statut que la violence, que les différentes cultures donnent à la violence, on rencontre d'abord, très paradoxalement, la question de la justice. Car combien de cultures sont violentes en construisant cette violence sur une légitimité que partagent ses membres, qui est une bonne administration de la justice, même si celle-ci passe par le génocide, pour aller très vite. Donc je crois que la place qu'une société donnée, à un moment donné de son histoire, fait à la question de la violence ou à la question de la vengeance, est totalement décisive dans la façon dont les membres de cette culture vont s'emparer de la question de la parole, vont transformer la parole en un acte violent, vont évacuer la question de la parole pour y substituer des comportements violents, ou vont réhabiliter la parole par rapport à la violence. Et j'en suis arrivé à une question, je vous la livre toute brute et en ayant conscience du manque de nuances qu'elle peut recéler, puisque j'ai travaillé sur la question des exécuteurs et des refusants. Je ne m'intéresse pas particulièrement aux exécuteurs, mais c'est un symptôme, entre guillemets, absolument central de la façon dont une société se voit rendre la justice. Et donc l'exécuteur, c'est le bras armé, que ce soit le bourreau qui applique la peine de mort dans la société, ou que ce soit toutes sortes de bourreaux qui sont le bras armé d'une justice. Et il est absolument frappant et paradoxal de voir que l'acte de l'exécuteur le plus terrible, dans le génocide le plus terrible, se vit de l'intérieur comme l'administration d'une bonne justice. Et je dois dire que ce n'est pas très rassurant. Nous préférions que les exécuteurs soient des bourreaux psychopathes, indépendants de notre propre système, là où quand nous écoutons. Alors dans mon livre, c'est paradoxal, parce que